Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 130e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin à 8h avec notre petite sélection de l'actu. Une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Salut Caf.
Salut mon ami Faskil, comment ça va en ce jour férié où nous sommes présents?
C'est vrai. C'est vrai, même si la notion de jour férié en ce moment ne veut plus dire grand-chose.
Écoute, moi il est 18h, en plus j'ai fermé le volet, il fait un temps dégueulasse. Donc nous enregistrons la veille, hein, comme d'habitude, car vous savez que nous, le matin, c'est...
C'est pas ça.
Non, faut pas dire ça, c'est pas très vendeur. C'est réservé aux activités de récupération importantes pour pouvoir être concentré le reste de la journée, c'est-à-dire on pionce en fait très souvent, surtout en ce moment en fait d'ailleurs.
Hein, c'est vrai.
C'est important de dormir. Voilà.
On essaye en tout cas. Allez, on y va. On a pas mal d'actu côté gaming.
Non.
C'est vrai. Bon, si, moi, je vois la conduite bien remplie.
On a fait pire.
Tu voulais nous parler de trucs, mais finalement, tu nous en parleras la semaine prochaine.
Alors ouais, parce que soit j'y ai pas joué, soit j'avais MotoGP 20 sur le back burner, mais j'ai pas eu le temps d'aller me prendre des bacs à sable, donc on en parlera la semaine prochaine. Et puis la grosse news de la semaine pour pas mal de gens un petit peu nostalgiques, c'était l'arrivée de Street of Rage 4. C'est pareil, je n'ai pas eu le temps de poser mes papates dessus, donc on le décale et on en parlera next week.
En revanche, on va parler évidemment de la grosse annonce de la semaine, enfin, ça dépend pour qui. Le nouveau Assassin's Creed a été dévoilé.
Ouais, comment tu prends... Alors, Valhalla. Ça fait très chanson d'un mec blond des années 70, hein, fais gaffe. Bref, donc ça se passe chez les Vikings, c'est Assassin's Creed avec des grosses haches. Il y a le trailer qui est sorti hier soir, en tout cas si vous écoutez ce podcast vendredi matin. Le trailer est du reste sorti plus tôt que ce qui était prévu, ce qui a surpris pas mal de monde, mais tant mieux, puisque pour une fois on peut en parler, parce que s'il était sorti à l'heure normale, j'aurais zappé cette information. Et donc, il n'y a évidemment pas du tout de gameplay d'annoncer ou de révéler dans cette vidéo. En revanche, le trailer est extrêmement qualitatif, hein, comme chez Ubisoft. Vous allez évidemment vous dire, à quand le film? Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir avoir un truc un peu rigolo à regarder en 3D? Pas pour tout de suite. Mais en revanche, là, on est surtout en train de se demander si on regarde du Assassin's Creed ou du For Honor. Parce que c'est assez violent, mais en tout cas, on nous montre un univers qui est assez loin des meurtres subtils avec infiltration qu'on avait par le passé. On est quand même sur un truc un peu bourrinos. Alors, on a plus d'informations via le communiqué de presse d'Ubisoft où on découvre qu'en fait, le jeu va se passer en Angleterre avec un personnage qui s'appelle Eivor, qui sera un homme ou une femme en fonction de vos choix et qui va devoir gérer sa colonie vu qu'il s'est fait virer de son pays natal. Et qu'il va falloir se faire une place avec ses potes anglais. Évidemment, ça se passe pas bien, comme vous le voyez dans le trailer. Il va falloir, a priori, gérer des raids, faire des alliances politiques. Bref, il y a toute une gestion de sa colonie qu'il va falloir mettre en place. Encore une fois, on jugera sur pièce, mais c'est pas vraiment ce qui fait l'ADN d'Assassin's Creed pour moi. Je vous rappelle qu'on n'a pas vraiment eu de réponse sur les trucs qui se passaient de nos jours dans les premiers Assassin's Creed. Vous vous rappelez, hein, il y avait tout ce principe de je vais dans le passé et puis je reviens dans le présent et puis il y avait une intrigue un peu intéressante avec des côtés tech, science-fiction, tout ça. Bon, tout ça a disparu depuis un petit moment, comme mon envie d'y jouer d'ailleurs. Donc, écoutez, j'ai pas fait les derniers. Je ne suis pas pour l'instant ultra hypé pour faire le prochain. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient à donf, hein, tant mieux pour eux. Techniquement, en revanche, ça va être intéressant de voir ce que ça donne parce que ça va sortir sur PS4, mais aussi sur PS5, sur Xbox Series X, sur Xbox One aussi. Bref, ça va être un des premiers gros jeux à sortir sur les nouvelles machines de Microsoft et Sony. On a hâte de voir la gueule que ça va avoir. Ça sortira aussi, évidemment, sur PC, mais c'est uniquement sur l'Epic Game Store, Uplay et Uplay Plus, pour ceux qui sont abonnés. Il n'y a plus qu'à se prendre son mal en patience. En revanche, au niveau des tarifs, c'est comme d'habitude, les préco un petit peu musclés avec les bonus, etc., ça va flirter avec les 100 euros passés, tu vois. Okay. Donc, bon, bah, il faut vraiment être
fan.
Fan hein, pour sortir la carte bleue maintenant. Ou sinon, vous faites comme moi, vous attendez tranquillement de voir ce que ça vaut. Je pense qu'on aura le temps. Ah oui, ça sort aussi sur Google Stadia. J'ai failli l'oublier. On devra reparler tout à l'heure de Google. Ne bouge pas.
Et on reparle aussi de Valorant, plus exactement de sa protection anti-cheater.
Oui, Vanguard, qui a énervé pas mal de monde parce que ça s'installe vraiment au niveau root de son Windows, et donc ça se lance quoi que vous fassiez au démarrage de votre machine. Et les gens se disaient, bon voilà, si ce truc-là se fait pirater, c'est une porte ouverte pour vraiment aller choper tout ce que vous voulez sur sa machine. Donc, c'était un raccourci technique un petit peu violent, il y a des protections qui ont été mises en place, Riot n'est pas complètement nul en programmation, les amis. Ils avaient un petit peu prévu le cas de figure. Mais bon, ils ont bien vu que ça agaçait tout le monde. Donc, ils ont prévu maintenant la possibilité de désactiver en fait Vanguard. Alors, on peut soit le désactiver, soit le désinstaller directement. Bah, avant, c'était pas possible sans désinstaller tout le jeu. Mais évidemment, bah, il n'est pas possible de jouer sans Vanguard. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez jouer à Valorant, et bah, au moment où vous allez lancer une partie, il va vous dire « Super, maintenant, t'as plus qu'à redémarrer ta machine parce qu'il faut que je réinstalle mon petit copain Vanguard. »
Ah ouais. Ok, d'accord.
Donc, okay, bah
c'est
oui.
Désactivation un peu.
Voilà. Donc, en fait, ça, ils ont rien changé à la technique du truc. C'est juste pour les gens qui étaient en mode, genre, oui, mais moi, j'ai des trucs trop importants sur ma machine. Je ne veux pas avoir ce machin qui tourne en permanence. Bon, alors, déjà, il était pas actif quand Valorant, en fait, n'est pas actif. Il tourne vraiment avec, mais il prend que dalle, tu vois, en CPU, etc. C'est vraiment que dalle. Vous avez des trucs qui gèrent vos RAM RGB qui sont beaucoup plus bordéliques que ça.
Non, mais comme on le disait, les gens sont encore échaudés de l'expérience Star Force il y a quelques années. Hein,
donc, je sais même pas s'ils s'en rappellent, très honnêtement. En tout cas, c'est la jeune génération.
C'est pas faux.
Franchement, les mecs, ils ont oublié quand ils étaient pas nés. Donc, je comprends la problématique technique qui peut vraiment agacer certains, mais bon, ça a pris des proportions un petit peu débiles. La problématique pour Riot, c'est vraiment d'avoir un outil anti-cheater ultra efficace, et il n'y a pas 50 moyens pour, évidemment, aller chercher cette efficacité au max, c'est de s'installer là où ils se sont mis. Bon, bah, maintenant, ils ont vu que ça faisait râler, donc ils ont proposé ces choses-là, c'est là, et je ne pense pas qu'ils fassent plus, c'est-à-dire que les gens qui espèrent un Vanguard qui se lance qu'au moment de lancer le jeu, bah, on connaît les limitations des autres, les cheaters sur Apex, PUBG et compagnie, on sait qu'ils existent, on sait d'où ça sort, on sait des problématiques que ça cause. Si Vanguard prouve que il arrive à bloquer tous ces trucs-là, eh ben, il aura une raison d'être, et je pense que d'ailleurs, ça risque de provoquer une petite vague de nouveaux anti-cheat qui veulent absolument se mettre au même endroit. Si les autres éditeurs s'aperçoivent que finalement, ça râle beaucoup, ça agite les bras, mais au bout d'un moment, ça lâche l'affaire quand ils vont voir qu'il n'y a pas de cheater. Si, j'ai pas dit que c'était le cas, hein. J'ai dit si on voit que c'est le cas. Évidemment, les autres feront certainement la même chose. Maintenant, on espère que ça sera fait qualitativement. Donc voilà, il y a ce truc-là qui est sorti, mais je vous confirme qu'au jour d'aujourd'hui, le désactiver, si vous voulez vraiment jouer à Valorant, c'est s'obliger à redémarrer sa bécane, ce qui moi personnellement m'emmerderait, mais alors vraiment beaucoup.
Oui, j'imagine. Et on reste dans le gaming et on reparle de nos amis de GOG Galaxy qui continuent donc leur petit chemin avec la version bêta de la 2.0. Nouvelle mise à jour récente là, qui propose désormais d'ajouter à sa collection, en plus des bibliothèques de jeux classiques, les services par abonnement, ce qui est plutôt bien vu que c'est de plus en plus populaire. Hein, donc on peut intégrer désormais les catalogues du Xbox Game Pass pour PC, de EA Access, de Uplay Plus et de Humble Choice, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Enfin, moi je l'utilise pas encore comme hub principal, on va pas se voiler la face, mais je garde quand même un œil dessus, parce que je pense que le jour où ils vont réussir à centraliser les listes d'amis, les messageries de tous les services, ça risque de faire assez mal, mais c'est pas encore le cas pour le moment. Ils ont ajouté une autre petite nouveauté, c'est la possibilité désormais de mettre en place des exécutables personnalisés, donc avec des arguments en ligne de commande, tu sais, comme tu peux le faire sur Steam,
ouais.
Si tu veux être sûr qu'il lance la version 64 bits, ou si tu veux le lancer avec des options en plus, eh bien voilà, maintenant tu peux le faire aussi dans GOG Galaxy, qui est toujours donc en open beta. Je vous invite à aller tester. Je sais pas si tu l'utilises encore, toi.
Moi, j'utilise tout le temps parce que, en plus, il me permet de garder un œil sur les choix de jeux discutables de mes amis sur le PlayStation Network. Parce que oui, ça gère le PSN. J'ai toujours trouvé ça très drôle, dans la mesure où, en fait, ça t'affiche ta bibliothèque et quand tu cliques, ça te dit, bah, t'as qu'à te mettre devant ta PS4, gros débile. Je trouve ça assez rigolo. Mais comme ça permet de voir à qui joue à quoi, c'est toujours rigolo. Mais sinon, je le trouve plutôt bien fait. Malheureusement, j'ai des jeux qu'il ne veut pas lancer. Alors, soit il les voit pas installés, soit il les voit, mais ça déconne. Donc, bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein, l'initiative est louable, mais elle est très risquée. Et donc, ils sont pas sortis de l'auberge avec ce projet. Et par contre, j'ai vu qu'ils allaient bientôt lâcher le côté bêta de l'affaire et assumer complètement cette version 2.0 qui devrait d'ailleurs. Moi, j'ai vu un mail passer qui me prévenait que attention, vous étiez peut-être encore sur l'ancienne version. Maintenant, c'est cette version-là et c'est tout. Donc bon, ils ont passé la seconde. Ils sont confiants, tant mieux. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Hein, donc j'espère que ça se passera bien. Mais après, techniquement, je sais à quel point c'est casse-gueule, quoi.
C'est clair. Allez, on va rester dans le techniquement casse-gueule avec nos amis de Google.
Ah là là, j'espère que tu aimes dans ma conduite le Stadia.
Je vais le remettre dans le billet qui accompagnera le podcast.
C'est obligé.
Ça résume bien le truc.
C'est obligé. Donc, ils ont fait un event cette semaine. Oui, un event pour annoncer leur nouveau jeu. Ils ont appelé ça un Stadia Connect. Hein, merci Nintendo. pour annoncer des choses. Voilà, annoncer des choses que j'aurais résumé à pas grand-chose, en fait. Hein. Voire limite rien. Alors là, grosse annonce, alors évidemment c'est pour annoncer des nouveaux jeux, mais voilà, il faut que je sois très clair avec vous, il n'y a rien à part l'arrivée de PUBG sur le truc. Donc PUBG, un jeu de 2017, hein, une nouveauté, qui est adapté, attention, dans une version spéciale Stadia. Donc si vous êtes abonné pro, vous avez accès au Survivor Pass Coldfront, qui est en fait le Battle Pass local, qui sera donc, vous n'aurez pas à le payer. Sinon, bah faut lâcher $40. $40 sur Stadia, faut vraiment avoir envie. Et pour vous, public adoré, je me suis sacrifié, j'ai été essayer de jouer à ce truc. Et bah les gars, en fait, je vous avais dit que Destiny, c'était vraiment moche sur Stadia et tout. Mais non, oubliez ce que j'ai dit. Mon nouveau record de mocheté, c'est ce PUBG qui est tout pixelisé. Je peux même pas t'expliquer à quel point c'est moche. Le moteur n'est pas du tout content d'être sur Stadia, en fait. Le moteur 3D ne vit pas sa meilleure vie sur cette version. C'est vraiment très laid. Alors je suis en fibre, machin. J'ai été voir les options, j'ai tout boosté. J'ai trouvé ça immonde. Je ne sais pas si c'était vraiment parce que j'ai testé hier soir, alors ça venait de sortir. Est-ce qu'il y avait un problème sur leur bécane? Je ne sais pas. Mais c'était vraiment, vraiment pas beau. Et puis, la blague, c'est qu'il n'y avait pas grand monde non plus. Alors, j'ai trouvé une partie, mais pour trouver une partie, il a fallu que je me mette en third person, enfin, vue à la troisième personne, activer toutes les maps, etc., etc., pour que le jeu me trouve un endroit où atterrir. Si vous essayez de forcer un certain type de map ou certains types de jeux, bon courage. Parce que je me suis logué maintenant dans un lobby, on était trois. Bon, comment vous dire, je ne suis pas resté, c'est compliqué, ça se remplissait pas du tout. Donc entre la problématique du service lui-même qui n'est pas ultra populaire, même les gens abonnés n'y jouent pas, et en plus un Battle Royale où tu as besoin de 100 péons pour pouvoir lancer une game, je vous laisse imaginer la problématique globale que ça va provoquer. Je ne vois pas ce jeu cartonner du tout sur Stadia, et c'était la grosse annonce hein, de cet event, parce que tout le reste, je vais même pas vous les cités tellement, il y a un moment, faut se respecter. En revanche, comme ils avaient rien, ils ont annoncé, mais attendez, hein, bientôt, il y aura des trucs. Donc, les trucs qu'ils ont annoncés, c'est pour cet hiver. Alors, pour cet hiver, nous aurons la nouveauté Star Wars Jedi Fallen Order.
Que tout le monde aura déjà fini deux fois.
Voilà, donc super, on est hyper content. Qu'il faudra acheter, hein, je vous rappelle. Hein, non, parce que je vous rappelle que c'est pas un Netflix. Il y aura aussi dispo des jeux Electronic Arts, toujours avec la série des Madden, dernières éditions des Madden et FIFA. Pour les gens qui l'auront pas déjà acheté 42 fois sur leur nouvelle console qu'ils auront acheté entre temps. Parce que, évidemment, en plus, la situation de Stadia, elle va être rigolote avec l'arrivée des nouvelles consoles. Je pensais à ça récemment. C'est-à-dire que là, en plus, du coup, il va falloir qu'ils expliquent pourquoi c'est moche, pourquoi c'est cher, parce qu'en plus, aller voir les promos ou les jeux full price, c'est vraiment les prix les plus chers que vous puissiez trouver sur le marché. Hein. Et pourquoi finalement une console, on n'a pas les prix, hein, mais une console que tu as chez toi avec des trucs en plus, va finalement offrir une expérience de jeu largement supérieure. Plus ça va et moins je vois ce service pérenne, pour être gentil. Après, c'est Google, donc on ne sait pas jusqu'à quand ils veulent supporter le truc à bout de bras, mais je pense qu'on va encore avoir quelques news rigolotes sur le sujet. En tout cas, cet event était un petit peu décevant, et alors qu'ils l'avaient un petit peu pubé en disant « J'espère que vous serez là pour le stream, on va annoncer des trucs. » J'ai bien fait d'attendre les news de mes confrères.
Allez, on termine cette section gaming avec une petite reco perso. Je voulais vous parler de Metaphobia. En Metaphobia, si j'ai bien compris, c'est un point and click qui était sorti un peu moins d'un an en juin 2019 sur Itch.io. Tu sais, le site où on peut avoir des petits jeux indépendants. Mm-hmm. Et qui, a priori, serait disponible depuis quelques jours sur Steam. Et comme il est gratuit, bah, je me suis dit que ça faisait une chouette reco pour les gens qui s'emmerdent un peu en confinement. C'est un jeu d'enquête, en fait, et de mystère dans le style des point and click des années 90. On pense très très fort à Gabriel Knight. Il y a une grosse inspiration assez clair. Alors, je vous raconte l'histoire en deux secondes. Hein. C'est peu après avoir été élu maire, un certain Karl Helmstadt est assassiné par un voleur qui va être rapidement capturé, condamné et envoyé en prison. Mais le fiston de Karl, un certain Richard, lui n'est pas du tout convaincu. Donc, on va participer à l'enquête qu'il va mener pour essayer de lever le voile un peu sur ce qui s'est réellement passé. J'en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais pour les fans du genre, ce serait dommage de passer à côté. Surtout que même s'il est pas parfait, même s'il est parfois un petit peu cliché, c'est tout de même un chouette petit PNC. Et en plus, il est gratuit. Donc voilà, Metaphobia, c'est sur Steam. Mais je vous linkerai bien évidemment tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast. On passe du côté des apps avec ta grosse occupation du moment, Mailspring.
Aïe, aïe, aïe. Tu me fais du mal car j'ai le texte encore sous les yeux que je suis censé terminer pour Geekzone. Normalement, ça sera terminé juste avant ou juste après la publication de ce podcast. Ça veut dire que je vais travailler là après ce podcast pour terminer le texte. Mailspring, qu'est-ce que c'est ? C'est une application d'email qui n'est pas du tout nouvelle, mais que j'avais un petit peu oublié et je voulais en reparler parce que finalement des applications mail un peu sexy quand on n'est pas sur macOS, il y en a pas beaucoup.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup toi t'es bien passé pour en parler puisque tu te tapes EM client sur ton Windows.
En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que soit t'as du fonctionnel qui marche bien mais qui est moche, soit t'as des trucs jolis mais qui sont ultra limités.
Ah, donc, c'est génial.
Il faut choisir un moment. Moi, j'ai choisi le moche fonctionnel.
Tu m'as fait plaisir parce que dans mon texte, je te le lis, une exclusivité du podcast. J'avais écrit il y a plusieurs écoles pour les clients mail, donc les besogneux moches mais qui font le taf.
Bah oui, voilà.
Ou les j'ai pas le choix mais c'est open source comme Thunderbird, ou les beaux gosses de service pour parler de Spark, qui est évidemment mon client préféré. Mais Spark, il y a un petit problème, c'est que il est dispo sur Android, sur iOS, sur macOS, mais quand tu arrives sur ton Windows et que tu as besoin de bosser sur Windows ou Linux, il n'y a plus personne. Alors c'est un petit peu problématique, surtout que Spark a annoncé, on sait qu'il y a une version Windows en développement, mais ils prennent leur temps vu que en fait, il y a toute une histoire de framework derrière dont ils ont besoin. Et comme ils veulent pas redévelopper leur application 40 fois, ils terminent le framework pour pouvoir faire l'application à base, enfin sur cette base-là, ce qui leur permet après de faire leur portage sur leurs outils, sur les différents OS. C'est ce qu'ils ont fait pour la version Android et ça marche plutôt bien, a priori. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, mais là, j'ai besoin de bosser sur mon PC en ce moment. Ok, en fait, j'ai un nouveau PC, comme vous le savez, je suis hyper content, j'ai envie de faire des trucs sur Windows. Puis je me dis, voilà, tu vois, il faut revenir aux vraies valeurs. J'ai quand même bossé sur PC pendant un petit paquet d'années. Mais, écoutez, les clients mail, c'était tellement la bérésina et j'ai tellement pas envie d'utiliser Outlook ou MClient que je me suis retrouvé à utiliser les webmail, en fait, de mes différents fournisseurs. Alors, ça marche, hein, on peut tout à fait survivre avec son webmail. Mais, j'avais envie de trouver un truc un peu sexy. Et donc, en fouillant, le seul que j'ai trouvé, c'est donc notre ami Mailspring. Et Mailspring, c'est en fait un reboot d'un projet dont on avait fait une news en 2016, qui s'appelait Nilas N1, et qui était effectivement assez sexy, et puis qui avait disparu de la circulation, comme pas mal de projets open source. Il y a des gens qui se sont engueulés, donc qui ont décidé de plus bosser ensemble, donc le projet est mort. Voilà, c'est un peu les problématiques de l'open source, si tu veux, c'est que t'as pas une boîte et t'as pas du gain pour faire avancer le truc. Donc du coup, un des cofondateurs de Nilas a relancé Mailspring en 2017, et depuis, ça évolue. Mais le problème, c'est que ça évolue un peu lentement. C'est pour ça que, au début, je pensais faire une petite news, et puis ça s'est terminé en gros pavé, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et pas mal de choses un petit peu frustrantes. Et moi, ça m'énerve, parce que le truc est joli. Tu te dis, ça va être enfin sympa. Ça marche sur Linux, ça marche sur Windows, ça marche sur macOS, ça marche partout sur desktop. Il n'y a pas de version mobile, mais ça marche sur tous les OS desktop. Tu te dis, pourquoi vous avez fait tel truc, il y a plein de choses qui ont fini par m'énerver. Donc, pour détailler vite fait, parce que je ne vais pas vous refaire les 6000 signes du papier dans le podcast, ça va être un petit peu long, on se retrouve avec des choses qui sont zarbes. La pire que j'ai, le bug qui, moi, me fait dire, ok, vous voulez, dans votre version pro, que je paye $8 par mois pour utiliser votre truc. Ok, mais commencez par régler ce problème-là. Ce problème-là, c'est que j'ai certains mails qui arrivent avec pas de saut de ligne. Genre, ton formatage du mail, il est niqué.
Ah, super.
Alors que ça marche sur absolument tous les autres clients, ça marche dans ton webmail, tout va bien. Non, non, dans la version que tu reçois dans MailSpring, le truc, c'est un seul pavé, il n'y a pas de paragraphe. Donc ça, c'est un truc déjà, c'est... Tu vois, ça ne devrait pas exister, surtout quand tu veux vendre une version pro à 8 balles par mois.
C'est clair.
Et il y a un moment où il faut commencer par les bases, c'est-à-dire afficher les emails de manière irréprochable tout le temps. Donc quand tu n'as pas ça, déjà, ça ne met pas en... Tu vois en super confiance. Ensuite, il y a des trucs qui me paraissent super bizarres, genre la signature des mails. La signature des mails, donc tu as un mode HTML où tu peux éditer en RAW vraiment le code HTML, faire ta signature comme un grand. Tu peux utiliser des templates pour avoir des mails jolis avec leurs templates qui vont en fait générer en background un truc HTML si tu veux. Mais en revanche, tu veux une signature toute simple en texte, tu peux pas.
Ah bon?
Ah bah non, tu peux pas. Ça, c'est pas possible. Il y a pas, c'est pas prévu dans le truc. Je suis, les gars. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont rien à foutre de vos signatures HTML, de vos trucs super sexy et tout, là. Donc, bon, bah, pareil. Ça, c'est qui peut le plus, peut le moins. Ça aurait été pas mal de commencer par ça. Et puis, il y a des petits trucs. Alors après, il y a des points de détail, hein, des choses que même Apple avait fait et sont revenus. D'ailleurs, c'est genre, par exemple, la touche backspace, par défaut, ça n'efface pas tes mails, ça les archive. Je déteste ça. Après, tu ouvres tes archives, t'as plein de conneries dedans, tu penses avoir effacé, mais pas du tout. Et ceux qui se rappellent, les premières versions de mail sur iOS faisaient ça. Donc Apple, c'était pareil, c'était une option que tu pouvais changer, mais personne n'ouvrait jamais les options. Donc si tu fais pas gaffe, t'as ce truc-là. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui sont pénibles. Et puis, le dernier point un peu problématique, c'est que dans la version payante, il y a plein de trucs qui sont gratos dans un Spark, par exemple. Alors, c'est pas les mêmes business models, mais devoir payer pour avoir les templates, les profils de ses comptes, le tracking des mails envoyés, qu'est-ce que j'en ai à foutre, la gestion des relances, les envois différés, c'est vachement bien, mais pareil, c'est payant. Et le mode snooze, il est dispo gratos, mais en revanche, il va faire un truc que je déteste, c'est qu'il va créer forcément un folder sur votre serveur IMAP, folder que vous verrez avec vos autres clients, du coup. Ça, je déteste ça. Mais c'est juste que justement, ils ont une création de MailSpring ID, mais cette ID, en fait, ne sert pas à grand-chose, en tout cas pas à ces trucs-là. Donc, c'est une bonne nouvelle si vous voulez pas que votre fournisseur de clients mail aille potentiellement espionner des trucs. Mais du coup, ça gère même pas, cette ID, les configurations. Donc, si tu le réinstalles sur un autre OS, il faut tout se retaper à la main.
Okay.
Ta configuration, la gestion des comptes, etc. etc. Donc voilà, il y a plein de choix où tu sens que les mecs n'ont pas complètement terminé le boulot, et le truc est assez irréfutable. La preuve de ce problème, c'est leur page justement d'abonnement pro, qui est avec un wording au niveau marketing, c'est pas glorieux, tu vois. J'ai vu largement mieux, la page est un peu momoche, et en plus, il y a des bugs dedans qui sont présents depuis une dizaine de jours, enfin, peut-être même avant, hein, je les avais jamais vus, mais genre des choses qui sont. Tu sens qu'il y a c'est des placeholders, enfin, c'est pas des placeholders. Normalement, ça devrait afficher quelque chose à la place de ce truc-là, genre tout en bas, t'as un truc où il y a marqué input schéma. Voilà. Bon, j'ai pas envie de vous donner de l'argent, les mecs, parce que si c'est comme ça que vous gérez votre page, je veux pas savoir comment vous gérez votre service compta, tu vois. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc, voilà, vous êtes. Alors, je vous dis, mais pourquoi on parle de ça si c'est si pourri? C'est parce qu'en fait, c'est le seul, les gars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative dans les clients mail un peu sexy, qui essayent de faire des choses différentes, qui apportent des fonctionnalités d'un Spark sur Windows, par exemple. Tant que Spark n'est pas dispo, c'est un peu la seule option intéressante. Et sur Linux, il n'y aura jamais Spark. Donc, tu te dis, quand tu vois les clients mail sous Linux, tu te dis, c'est pas mal. Alors, je sais que c'est 2% même pas du desktop, mais quand même, tu vois, ça serait pas mal d'avoir des outils sympas. Les gens qui sont cantonnés à Thunderbird, au bout d'un moment, ils vont tuer des personnes random dans la rue, c'est dangereux. Thunderbird, je peux pas. Hein. Je toute ma boîte bosse avec ça, mais je comprends pas. Je veux dire, c'est vraiment très très douloureux. C'est un des trucs les plus moches que je connaisse pour gérer ses mails. Alors après, la différence, c'est que ça marche. C'est pas joli, mais c'est pas joli tout le temps, tu vois. Comme ça, t'es pas surpris. Donc voilà, je voulais justement donc vous parler de tout ça, et puis vous aurez donc un papier qui détaille toutes ces problématiques sur Geekzone ce vendredi, donc le jour où vous écoutez ce podcast à minima. Mais vous allez voir, ça se teste, parce que la version gratuite, et c'est pour ça que je calme le jeu à la fin, c'est que la version gratuite, finalement, elle fait le taf. Bon, j'ai toujours pas compris pourquoi j'avais des mails qui arrivaient donc avec ces sauts de ligne en moins. Mais écoutez, ça fait maintenant plus de 10 jours que je l'utilise et c'est pas non plus un mail sur deux, attention. Donc voilà. Mais par contre, si jamais vous êtes pris d'un coup de cœur et vous dites je veux payer ce truc-là, retenez-vous, hein, attendez de l'utiliser un petit peu parce que je pense pas que vous soyez extrêmement content de dépenser $100 par an pour payer ce truc-là au bout du compte.
Mailspring, donc, et on vous linkera le papier que tu vas aller écrire tout à l'heure.
Qui écrit? Arrête!
On passe du côté de la culture. Je voulais vous parler très vite de deux sorties. La première, c'est sur Disney+, pour ceux qui ont Disney+. Donc, je râle un peu parce que moi, je l'ai toujours pas ici en Belgique. C'est la sortie d'un documentaire sur le tournage de la série The Mandalorian, qu'on a beaucoup aimé ici à Geekzone. C'est une série documentaire en 8 épisodes. Il y en a 4 qui ont été annoncés pour le moment, sachant qu'on aura donc un épisode sur les réalisateurs, à savoir Jon Favreau et Dave Filoni, un autre sur l'héritage de George Lucas, un sur le cast et enfin un sur les technologies utilisées pour réaliser la série. On en avait parlé déjà dans les forums, en tout cas il y a toutes ces technologies autour du moteur Unreal qui permet notamment de créer des décors en temps réel sur des gros LCD, enfin bref, tout ça donc sera dépouillé j'imagine dans l'épisode consacré à la technologie, et puis on devrait aussi avoir des épisodes normalement sur les effets spéciaux, sur les créateurs de la série, sur la musique. Donc ça risque d'être intéressant, surtout si vous avez accroché à la série. C'est dispo a priori à partir du 4 mai 2020 sur Disney+. En tout cas aux États-Unis, on attend confirmation pour la France, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Et pour la Belgique, bah on peut se toucher. Donc moi je vais de ce pas envoyer un courrier à mon oncle Bob VHS des États-Unis pour qu'il me récupère une copie, parce que sinon ça va pas être possible.
Sacré Bob.
On passe du côté des séries avec la sortie du premier épisode de Penny Dreadful, City of Angels. Est-ce que tu as regardé Penny Dreadful, toi, ou pas du tout?
Je dois avoir maté 4 ou 5 épisodes de la toute première série. Mmh. Et c'était rigolo, mais j'ai oublié de mater la suite, en fait.
C'est ça. Bah là, on a droit à un spin-off. Enfin, c'est pas vraiment un spin-off, c'est plutôt une série sœur qui s'appelle donc City of Angels, qui se déroule à Los Angeles en 1938. Et ça touche au folklore mexicain, cette fois-ci, et notamment à Santa Muerte, la célèbre divinité qui s'occupe d'accompagner les morts durant leur dernier voyage. C'est une série fantastique, donc, comme son aîné, toujours chapeauté par l'excellent John Logan, et toujours produite par Sam Mendes, et toujours diffusée sur Showtime, donc il faudra qu'on se rencarte pour les diffusions en France. Je sais pas qui a des deals avec Showtime. La série a débuté le 26 avril dernier, devrait proposer au total 6 épisodes, et bah, du côté du cast, ça fait plaisir aussi, puisqu'on retrouve Nathalie Dormer, qui incarne donc Magda, un démon métamorphe.
Oui.
Kerry Bichet, qu'on a pu voir dans Halt and Catch Fire, qui joue donc le rôle de Sister Molly, une évangéliste qui fait de la radio. Ou encore Daniel Zovato, qui incarne le personnage central de la série, à savoir Santiago Vega, le premier détective américano-mexicain de la police de Los Angeles. Voilà, c'est donc Penny Dreadful, City of Angels. Et je vous linkerai le trailer donc, de cette première saison qui a commencé sur Showtime. Et on passe du côté de la tech avec des news d'Intel.
Oui, Intel n'est pas mort. Non, mais oui, ils vont bien, en fait. Hein. Ils ont gagné de l'argent, tout ça. Mais comme on le dit depuis un petit moment, ils ont mal en face d'AMD qui sort des gros CPU, mais qui ne gagnent pas forcément beaucoup plus d'argent vu la situation mondiale actuellement. Et techniquement, bah, Intel nous sort des nouveaux trucs en se disant « Voilà, maintenant on est revenu, on est back in the game. » Donc, ils nous annoncent la 10e génération de CPU. Une 10e génération qui va se retrouver sur tous leurs modèles, hein, depuis Celeron, i3, i4, non, il n'y en a pas eu des i4, tout va bien, de i5 jusqu'au i9. Si vous cherchiez un truc novateur, repassez plus tard, car en fait, c'est toujours la même architecture qui traîne depuis 2015. C'est toujours gravé en 14 nanomètres. Je rappelle qu'AMD c'est du 7 et que ça fait une sacrée différence. En revanche, il y a un nouveau socket, le LGA1200, qui est obligatoire. Il y a donc des nouveaux chipsets avec en tête de pont pour les gamers le Z490 des performances boostées, puisqu'on retrouve sur l'i9 maintenant carrément 10 cores et 20 threads avec une vitesse maximum de 5,3 GHz à mon avis une petite fonction chauffage personnel qui doit pas être inintéressante. Alors les gens qui sont les plus contents dans cette histoire, ce sont les fabricants de cartes mères.
Ah bah oui.
Qui dit nouveau socket, dit achat de cartes mères obligatoire. Et vu la gueule du marché actuellement, si tu veux, eux, quand on force les acheteurs à prendre une nouvelle carte mère, ça les arrange. Donc, t'as tous les Asus, Gigabyte et compagnie qui sont extrêmement contents, qui sont en train d'annoncer actuellement, là, maintenant, tout de suite, leur nouvelle gamme. Je dis ça, mais là, on est en train d'enregistrer, il va bientôt être 19h et il y a des annonces prévues de plusieurs constructeurs, justement, à 19h pour dévoiler toutes leurs super nouvelles cartes mères. On a trop hâte. En fait, c'est déjà un truc qu'on avait connu, puisque avec AMD, il y avait eu aussi besoin de nouvelles cartes mères, mais il y avait une raison intéressante en termes de technique sur les nouveaux Ryzen. Là, cette 10e génération de CPU, elle ne vend pas beaucoup de rêves. On attend évidemment les tests. Intel annonce les processeurs les plus puissants pour le gaming. On n'est pas très surpris. On imagine qu'en single thread, ça va être un petit peu devant ce que fait AMD. Mais dans la globalité d'utilisation et ce que vous allez voir sous vos petits yeux tous les jours, Eh bien, écoutez, à moins que les prix soient réellement sabrés côté Intel, je ne vois pas de raison de vous conseiller cette chose, puisque là, il est temps pour Intel de sortir des trucs vraiment, vraiment nouveaux, avec des performances un petit peu intéressantes. Et puis, bah là, nous, on a tous upgradé en fonction de nos budgets entre le 3600 et le 3900X du côté AMD. Il n'y a pas grand monde qui a pris du Intel. D'ailleurs, à ma connaissance, dernièrement, on n'en a pas eu sur Geekzone. Et c'est un petit peu normal. Donc voilà, je suis un petit peu énervé qu'on doive encore supporter un gros push marketing de nos amis Intel et que techniquement, bah, il n'y a pas grand-chose de réellement croustillant à se mettre sous la dent. Ça devrait changer dans les mois à venir, ou en tout cas en 2021, puisqu'ils ont des choses sur lesquelles ils travaillent, mais ils ont des problèmes pour gérer la finesse de gravure et d'autres petits détails techniques. Sauf que bah, la problématique pour eux, c'est que AMD aussi avance et il y a plein de choses qui sont dans les cartons des deux côtés. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et c'est la fin de ce 130e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, on va laisser de se reposer un petit peu ce week-end. Tu as maté Beastie Boy Story finalement ou pas encore?
Pas du tout encore.
Je voulais en parler tout à l'heure et j'ai oublié, juste vous rappeler que ça existe, c'est sur Apple TV+, et c'est vraiment génial, que vous soyez fan ou pas d'ailleurs des Beastie Boys, c'est vraiment très très chouette à regarder. Donc voilà, si t'as pas fait ça, fais ça.
Bon d'accord, ok chef. Mais t'as pas regardé des super vidéos d'unboxing de l'Amiga 1000 sur YouTube?
Non, c'est vrai.
Je perds vachement de temps dans des trips nostalgie à regarder des mecs réparer des vieilles bécanes et je suis admiratif et un petit peu jaloux parce que cette vidéo, le mec en fait en janvier de cette année a ressorti une bécane de 1985 qui a dû être utilisée 3 heures et qui, je veux même pas savoir combien il peut la vendre sur eBay si jamais il la vend, et auquel cas on ira chez lui pour le taper. Voilà, c'est tout.
Allez, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother.
He killed 80 people in 2 days.
He's adopted.